Grand reportage.
Depuis sa fermeture en 2016, jamais la route des Balkans n'a été aussi empruntée que ces 12 derniers mois par les candidats à l'exil. Mais paradoxalement, elle n'a jamais autant ressemblé à une impasse. Pour protéger les frontières extérieures de l'Union européenne, la Croatie et la Hongrie n'hésitent pas à violer les procédures du droit d'asile et à multiplier les mauvais traitements contre les migrants. Dans le même temps, le racisme ne cesse de se développer en Bosnie-Herzégovine comme en Serbie, où des milliers d'exilés sont bloqués dans des conditions toujours plus précaires. Jungle, barbelés et violences policières, les réfugiés malmenés dans les Balkans, c'est un grand reportage de Simon Rico.
Sur cette vidéo, enregistrée au printemps 2020 par des réfugiés, on voit un jeune homme en larmes, incapable de marcher après avoir été frappé par des policiers croates en arrière-plan. Ce témoignage, recueilli par l'ONG No Name Kitchen, est l'un des nombreux exemples de refoulement violent et illégaux qu'opèrent les forces de l'ordre déployées en masse par Zagreb à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Ces derniers mois, ces brutalités se sont généralisées au point que les femmes et les enfants ne sont même plus épargnés, comme l'explique Anna Čuča du Centre pour les études de la paix, le CMS, une association qui vient en aide juridiquement aux exilés.
Cette année, dans notre rapport annuel sur les pushbacks, nous avons recensé toutes les violences commises contre les mineurs et les mineurs non accompagnés. On parle de coups, de pistolets pointés sur la tempe pour faire peur, d'affaires confisquées. On a aussi le cas d'un jeune mineur qui a failli mourir après avoir été contraint par un policier de plonger nu dans une mare d'eau préalablement électrifiée. Il y a aussi les témoignages de mineurs de 15 ou même 12 ans qui racontent qu'après avoir dit qu'ils étaient mineurs, les policiers leur ont lancé c'est « Ok, vous êtes mineur, donc on va vous frapper encore plus fort ».
Alors que les associations comme le CMS d'Anna Čuča documentent depuis plusieurs années déjà les violences commises contre les réfugiés par la police croate, il a fallu attendre l'automne 2020 pour que les responsables européens finissent par s'émouvoir. Malgré les promesses de la commissaire aux affaires intérieures, la Suédoise Ylva Johansson, sur le terrain, rien depuis n'a changé. Agacés, les ONG accusent aujourd'hui Bruxelles d'être en réalité complice de ces violations manifestes des droits humains. Carolina Rugle est membre d'Arius Sirius, une organisation de volontaires déployée tout le long de la route migratoire des Balkans.
La Croatie cherche à être intégrée à l'espace Schengen et c'est pour cela qu'elle joue aussi bien les chiens de garde des frontières extérieures de l'Union européenne. Mais pour mener de telles actions, il est certain qu'elle a le soutien de ses partenaires européens. Nous estimons en effet que l'Union européenne a suffisamment de pouvoir pour contraindre n'importe quel État membre de cesser ses mauvaises pratiques. S'il y avait une réelle volonté politique, les violences commises au nom de l'Union européenne depuis si longtemps auraient déjà cessé.
Pour ces volontaires, la meilleure preuve de leurs affirmations est comptable. Entre 2015 et 2019, la Croatie, qui possède les plus longues frontières terrestres de l'Union européenne, a reçu plus de 130 millions de fonds de la part de la Commission pour renforcer leur sécurisation. Cet argent a notamment servi à acquérir de nombreux équipements, dont des caméras thermiques ou des drones, qui permettent de faciliter le repérage et l'interception des migrants irréguliers. Mais pour optimiser la traque des candidats à l'exil, Zagreb a aussi mis en place une unité secrète qui répond au nom de code Corridor. Des policiers qui opèrent cagoulés et sans insigne, dans la plus grande opacité, comme l'explique Anna Čuča.
On a appris l'existence de cette mission Corridor en lisant le témoignage anonyme d'un officier de police qui a été publié dans un journal croate. Ce policier y raconte la façon dont la mission fonctionne sur le terrain, comment on demande à ses membres d'utiliser leur téléphone personnel, comment on leur demande de désactiver leur GPS quand ils s'approchent de la frontière, comment ils doivent anonymiser leurs véhicules officiels. Il raconte aussi que ces policiers reçoivent des primes pour ces missions, un bonus d'autant plus important que leurs salaires sont très bas. Beaucoup s'engagent en espérant obtenir une sécurité financière, mais de toute façon, en cas de refus, ils risquent des sanctions.
Ce renforcement massif de la sécurité frontalière a longtemps valu à la Croatie les louanges de Bruxelles. À l'automne 2019, la Commission européenne avait d'ailleurs félicité Zagreb pour sa bonne gestion et recommandé son entrée dans l'espace Schengen, ce que le pays attend avec impatience en vue de booster le tourisme, sa principale ressource économique. Très investi sur le plan sécuritaire, la Croatie l'est autrement moins quand il s'agit d'humanitaire. Le gouvernement conservateur fait même tout son possible pour se débarrasser des exilés, notamment en empêchant et en dissuadant les gens de demander l'asile, comme le déplore Anna Chucha.
À partir du moment où quelqu'un dépose une demande, le délai pour obtenir une réponse définitive est d'au moins 2 ans. Les gens ne savent pas où ils doivent apprendre à parler le croate, une condition posée, parce qu'aucun cours n'est offert par l'État. Pour espérer avoir un permis de travail, ils doivent aussi attendre au moins 9 mois, alors même qu'ils reçoivent à peine 100 kunas, moins de 20 euros d'aide par mois. Il faut bien avoir en tête que toutes ces personnes qui demandent l'asile ont eu à subir les violences de la police croate.
And degrading treatment by Croatian police.
You force people, other people force people, Croatian police force people, they beat children, you force us dead 15 minutes.
Sur le terrain, les organisations humanitaires constatent les conséquences de ces dispositifs pensés avant tout pour contenir les exilés hors de l'Union. Médecins du Monde est l'une des rares ONG accréditées pour aider les quelques centaines de réfugiés hébergés dans les 2 centres d'accueil de Croatie, à moitié vides ces derniers mois. Une situation paradoxale, depuis sa fermeture officielle en mars 2016, jamais la route des Balkans n'a été autant utilisée qu'en 2020, selon les chiffres de Frontex, l'agence frontalière européenne. Juliette Delécluse est la coordinatrice de l'ONG dans la zone Croatie-Bosnie-Herzégovine.
Alors, ils sont dans un état d'épuisement psychologique, enfin ils sont vraiment dans un très mauvais état de santé mentale. On a vu vraiment clairement une dégradation de leur état de santé mentale ces dernières, on va dire, dernières années. Parce qu'on avait une population, il y a 2 ans, qui était plutôt des renvoyés donc, d'Allemagne et d'Autriche, donc qui étaient déstabilisés par le fait d'avoir été renvoyés, mais qui avaient un certain espoir. Maintenant, on a une population qui sait qu'en Croatie, ils ne vont pas avoir l'asile, donc ils sont totalement en transit et ils partent directement... dès qu'ils arrivent en Croatie, ils repartent très très rapidement. Donc on a des personnes qui sont vraiment dans un état clairement aggravé.
Alors que les 27 peinent à s'accorder sur une politique d'accueil commune, l'objectif de l'Union européenne est donc de bloquer les exilés à ses portes. Après avoir été un sas durant l'année 2015, quand 1 million de personnes étaient arrivées par la Grèce, puis la Macédoine du Nord et la Serbie, les Balkans ont donc fini par se transformer en une véritable nasse. C'est désormais un cruel jeu de loi qui se joue des Alpes jusqu'à la mer Égée, chaque État renvoyant les sans-papiers dans le pays en amont, au mépris des règles du droit d'asile. Et à force d'avancer de 2 cases et de reculer de 3, les migrants, notamment les plus jeunes, finissent par littéralement perdre la tête, s'inquiète Juliette Delécluse.
On est en errance totalement entre les pays et on a beaucoup de dépression, beaucoup d'anxiété, beaucoup de post-traumatique PTSD. On parle aussi de pas seulement de personnes. Globalement, ce qu'on voit, c'est des familles, principalement actuellement Afghanistan, Irak. Donc ce sont des familles avec des enfants qui sont sur la route pour certaines personnes depuis déjà 5 ans. Donc on se pose la question de l'avenir finalement de ces populations et de ces enfants.
Alors que la Croatie verrouille sa frontière au prix d'une extrême brutalité, la situation humanitaire a fini par devenir intenable dans le canton bosnien d'Unasana. Plusieurs milliers de réfugiés y sont massés dehors depuis des mois, sans aucun hébergement, après la fermeture des grands camps officiels. Cet hiver, les images d'exilés grelottant dans la neige et le froid, après l'incendie des tentes du camp de Lipa, symbole de cette faillite, ont fait le tour du monde et suscité l'indignation. Face à ce chaos, ils sont de plus en plus nombreux à rebrousser chemin, direction le nord de la Serbie, un détour long de plus de 1000 km. Ahmed vient d'Algérie, il squatte une maison abandonnée dans un village tout proche des frontières hongroises et roumaines avec 5 compatriotes. Tous espèrent enfin réussir ici ce que les migrants des Balkans surnomment le game, échapper à la police et entrer dans l'Union européenne.
Oh, c'est difficile, la Bosnie, la Croatie. Il y a l'armée cagoulée, elle prend l'argent, téléphone et tout. Il y a des gens à l'hôpital, coma. Même 2 Marocains morts. c'est par la Roumanie après la Hongrie. Il y a un triangle. La Hongrie, bien. Bien que la Bosnie, la Croatie.
Le triangle dont parle Ahmed, c'est cette nouvelle route migratoire à trois côtés qui permet de rejoindre la Hongrie, l'entrée de l'espace Schengen depuis la Serbie, en faisant un crochet par la Roumanie. Depuis l'automne dernier, le nombre de passages y est en forte hausse. Les demandes d'asile ont ainsi été multipliées par 3 en Roumanie sur les derniers mois de 2020. Anan a fui la Syrie avec son mari et son neveu, dont les parents ont été tués dans les combats. Cela fait 6 mois qu'ils sont tous les 3 bloqués en Serbie, car même ici, c'est très difficile de passer.
On a essayé toutes les routes, presque. Ouais. Ici, à Triangle, on est passé 12 fois. Et les frontières de Croatie à Hongrie, on a essayé 7 fois. La rivière Danube, 2 fois. C'est pas un petit Zodiac avec un moteur. On est passé, il y a un passeur là-bas. Donc on donne l'argent et on est passé. On est arrivé jusqu'à Timișoara. Et après, ça n'a pas marché.
Bloqués de plus en plus longtemps dans les pays des Balkans, les exilés subissent en plus la montée du racisme et de la xénophobie à leur égard, alimentée par les presses poubelles locales, très liées aux autocrates en place. En Bosnie-Herzégovine, des rumeurs circulent sur leurs prétendues agressions sans que jamais la preuve n'en ait été apportée. Et de nombreuses manifestations anti-migrants ont lieu, surtout dans le canton d'Unasana, où se concentrent les candidats à l'exil. Le même phénomène s'observe aussi en Serbie, exacerbé par les frustrations des populations locales, lessivées par 3 décennies de transition néolibérale. La solidarité des débuts ressemble à un lointain souvenir dans les Balkans, et seules de rares ONG continuent d'apporter leur aide, dont Click Active, un petit collectif basé à Belgrade. Vuk Vucković en est le fondateur.
Le discours a changé dès 2017. On ne parle plus de réfugiés, mais de migrants économiques venus pour islamiser la Serbie et l'Europe. Et l'opinion publique s'est brutalement retournée. Il y a un an et demi, on a même assisté à la montée en puissance de groupes d'extrême droite, avec des milices citoyennes qui se sont mises à patrouiller, notamment en prétendant vouloir nettoyer les parcs publics des détritus. Quant aux médias, ils y répandent plein de fake news.
Dans les villages du nord de la Serbie, à proximité des frontières, là où se massent les réfugiés, la plupart des habitants ont peur. Ici, beaucoup appartiennent aux minorités hongroises et roumaines. Et Budapest, comme Bucarest, leur ont généreusement délivré des passeports après leur intégration dans l'Union européenne. Munis de ces précieux sésames, les plus jeunes sont massivement partis chercher fortune ailleurs dès la fin des années 2000. Et les personnes âgées qui sont restées regardent avec méfiance leurs nouveaux voisins. Abraham Rudolph, la 60aine bien sonnée, est l'un des rares habitants du coin à accepter de parler. Pour lui, il est important de raconter la vérité aux médias.
Je vais vous dire, les migrants ici, ils ne font de mal à personne. Le seul ennui, c'est qu'ils endommagent les maisons abandonnées et qu'il n'y a personne pour dédommager leurs propriétaires. Mais c'est tout. Vraiment, ils ne font de mal à personne et ils font même vivre l'épicerie du village. De toute façon, ils ne vont pas rester. Ils veulent continuer leur route vers la Roumanie, puis la Hongrie.
La bicoque d'Abraham est adossée à une ruine squattée depuis plusieurs mois par des réfugiés. Dans son village de Majdan et le village voisin de Rabé, il ne reste qu'une grosse centaine d'habitants, environ 3 fois moins que le nombre de migrants. Pour faire bonne figure auprès de la population locale, la police y procède régulièrement à des opérations médiatisées, embarque de force les migrants vers les camps officiels, mais cela ne les dissuade pas de revenir. Hakim, un Palestinien de Syrie, a trouvé refuge dans l'une des nombreuses bâtisses abandonnées. Cela fait 3 générations que sa famille a le statut de réfugié.
My grandfather go to Syria.
Ça a commencé par mon grand-père qui a dû venir en Syrie. Puis mes parents sont restés là-bas. Mais en 2011, la guerre a éclaté. J'ai dû fuir vers la Jordanie, puis ensuite vers le Liban et enfin vers la Turquie. Après la Turquie, je suis passé par la Grèce, la Macédoine, le Kosovo et maintenant la Serbie. Cela fait 9 mois que je suis bloqué ici.
Subotica, Šid, Novi Sad, Belgrade, Kikineda, Vrčac. J'étais dans toutes les villes en Serbie. Mais c'est dur la vie ici. Je garde quand même espoir. J'espère réussir à rejoindre ma famille en Allemagne, dans la région de Stuttgart.
But I live bad life here. I have hope. Every my family in Germany, in Stuttgart.
La règle est bien connue chez les migrants des Balkans. Plus on a d'argent, moins on marche. Et plus on marche, plus on est vulnérable aux trafiquants comme aux violences. Si le triangle Serbie-Roumanie-Hongrie a encore la réputation d'être moins risqué que le passage via la Croatie, les violences policières contre les sans-papiers y sont pourtant monnaie courante. En 2020, l'ONG Save the Children a recueilli plus de 13 000 témoignages de refoulement irrégulier depuis la Roumanie. Ces agissements, les exilés ont même fini par les intégrer, comme le déplore Jérémy Ristor, le coordinateur de la mission de Médecins sans frontières en Serbie.
Les pushbacks ou les refoulements sont une pratique tellement courante que c'est devenu normal. On va rencontrer des gens qui ont été refoulés 5, 10, 20 fois, pour certains jusqu'à 40 fois. Et en plus du fait qu'ils aient intégré le risque d'être repoussés sans avoir le droit, conformément au droit international, de demander l'asile, ils ont aussi intégré toutes ces violences. Donc on va avoir des patients qui sont étonnés de ne pas avoir subi d'abus physiques parfois. Donc il y a vraiment une intégration de cette violence dans les populations migrantes.
Médecins sans frontières intervient sur la route des Balkans depuis 2013. Ses équipes ont longtemps apporté une réponse médicale d'urgence sur le terrain, mais l'année dernière, l'ONG a décidé de réajuster ses objectifs pour se concentrer sur la prise en charge des victimes de violences qui ne cessent d'augmenter, principalement sur les frontières extérieures de l'Union européenne.
Ce que nous constatons ici sur le terrain, c'est que les migrants sont piégés dans un cycle de violence qui va de quelques mois à parfois des années, exposés à des conditions de vie indignes et dangereuses, à toutes sortes d'abus. Et la situation en Serbie n'est pas du tout unique. Nous sommes témoins des mêmes pratiques en Bosnie-Herzégovine, aux frontières croates. Et ces actions sont liées principalement et directement aux politiques migratoires de l'Union européenne, qui sont basées sur des principes d'externalisation, d'endiguement ou de containment et de dissuasion.
Malgré les obstacles qui se dressent devant eux, Anan, son mari et leur neveu de 11 ans sont prêts à tout pour rejoindre leurs proches déjà installés en Allemagne. Pour se déplacer, se loger et traverser clandestinement les frontières, ils ont déjà dû débourser plus de 16 000 euros, notamment pour payer les passeurs.
C'est dur, vraiment c'est dur, mais on n'a pas le choix. Mon mari, il était soldat là-bas, à la Syrie. Il est parti avec son arme, donc il est recherché là-bas. Alors c'est difficile de rentrer chez nous. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'ils vont le condamner à mort, lui.
Qu'importe la hauteur des murs placés sur leur route et la terrible répression policière, les exilés bloqués dans les Balkans, de l'ouest de la Bosnie-Herzégovine au nord de la Serbie, finiront tôt ou tard par passer. Comme le regrettent les humanitaires, la politique ultra-sécuritaire de l'Union européenne ne fait qu'exacerber leur vulnérabilité face aux trafiquants et leur précarité tant pécuniaire que sanitaire. La seule question est celle du prix qu'ils auront à payer pour réussir le game. Ces derniers mois, les tarifs se sont remis à flamber. Entrer dans l'Union européenne via la Serbie se monnaierait jusqu'à 2000 euros.
Jungle, barbelés et violences policières, les réfugiés malmenés dans les Balkans. Un grand reportage de Simon Rico, réalisation Pierre Chaffangeon.